Frères et sœurs bien-aimés, comme nous y invite l'Évangile que nous venons d'entendre, mettons-nous à la suite du Seigneur. Le voici quittant les bords du Jourdain pour gagner ceux du lac de Génézareth. Nous passons avec lui de la Judée à la Galilée. Le Seigneur se rend plus précisément sur les territoires de Zabulon et de Nephtali. La région de Zabulon lui est bien connue. Lui qui a grandi dans le village de Nazareth auprès de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph. Il quitte alors Nazareth, nous dit Saint Matthieu, pour s'établir à Capharnaüm, dans la région de Nephtali. La raison de ce déplacement est double. Saint Matthieu nous précise tout d'abord que lorsque le Seigneur apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Interrogeons-nous un instant avec Saint Jean Chrysostome. Le Seigneur aurait-il peur pour ainsi battre en retraite ? Non, répond-il. S'il nous donne l'exemple de fuir devant le danger, il partit de la Judée pour réserver à un moment plus opportun sa passion. En effet, Jean-Baptiste, la voix qui crie à travers le désert, est réduite au silence par sa captivité. Le Verbe de Dieu doit quant à lui se faire entendre en proclamant la bonne nouvelle. C'est pourquoi, nous précise saint Anselme dans la glose, il se rend sur les territoires de Zabulon et de Nephtali, c'est-à-dire dans une région mitoyenne, entre la Judée et les puissances étrangères, entre la foi juive et les religions païennes, pour manifester en cette terre que l'on nomme alors le carrefour des nations, que lui, l'unique Seigneur, est venu pour que tous nous soyons sauvés. Saint Matthieu donne une seconde raison à ce déplacement du Seigneur, une raison plus ancienne que la nouvelle récente de la captivité du Baptiste. Si le Seigneur vient en Galilée, c'est pour accomplir la prophétie d'Isaïe concernant les terres et de Zébulon et de Nephtali. Pour comprendre et méditer cette prophétie, il nous faut revenir à la fondation d'Israël. Avant d'être une nation, Israël est le nom donné à notre patriarche Jacob, ensuite de son combat avec l'ange. Jacob, ou Israël, eut 12 fils qui sont à l'origine des 12 tribus se partageant le territoire d'Israël. Ainsi en est-il pour Nephtali, le 6e fils de Jacob, et pour Zabulon, son 10e enfant. Or voilà que dans l'histoire sainte, après la mort du roi Salomon, le royaume unifié par les règnes de Saül et de David se divise. D'un côté, les tribus de Juda, de Benjamin ainsi que celles de Lévi attachées au culte du temple de Jérusalem demeurent fidèles. Fidèles au Dieu unique, fidèles à sa loi, fidèles à son alliance comme à son roi légitime, Roboam, fils de Salomon. Ces territoires autour de Jérusalem forment alors le royaume de Juda, le royaume du Sud. En effet, les tribus du Nord, dont celles de Nephtali et de Zabulon, décident de suivre Jéroboam dans son complot politique comme dans son schisme religieux. Ce dernier se fait sacré roi, et comme le répètent inlassablement les chroniques des livres des rois, lui et ses descendants firent ce qui déplaît au Seigneur. Qu'est-ce à dire ? Ils s'écartèrent de la loi, de la foi dans le Dieu unique, en y préférant l'exotisme des idoles païennes. Et pour contrer le temple de Salomon, Jéroboam en fit bâtir deux, un à Dan, un à Bethel, dans lesquels Dieu est symbolisé par le veau d'or. Ils sont alors invités par un nouveau sacerdoce, ce peuple, à rendre un culte aux idoles. Voilà l'opprobre fait à Dieu qui ouvre la prophétie d'Isaïe. Ce peuple a décidé de préférer à la lumière de la foi les ténèbres conduisant à l'ombre de la mort. En raison de leur infidélité, voilà que ces tribus seront annexées par le royaume assyrien. C'est la honte qu'évoque le prophète Isaïe. Et sous le règne du roi Péka, voilà que les tribus et de Zabulon et de Nephtali sont déportées. C'est la honte ultime, la punition divine, l'exil de la terre promise par Dieu. Et c'est ainsi que les tribus infidèles seront peu à peu dissoutes et à jamais perdues. Mais Dieu, prenant toujours les devants dans sa miséricorde, donne à voir au prophète Isaïe la rédemption. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière se lever. En effet, celui qui se présente à nous dans l'Évangile en déclarant « Je suis la lumière du monde », le Seigneur Jésus, choisit les terres infidèles de Zabulon et de Nephtali pour se révéler au grand jour. Lui que Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, acclamait comme la lumière d'en haut qui vient nous visiter, est né à Bethléem en Judée, certes, mais a grandi sur la terre de Zabulon. Et parvenu au zénith de sa vie publique, voilà que celui qui éclaire tout homme en venant dans le monde s'établit à Capharnaüm, sur la terre de Nephtali. Capharnaüm, dont le nom signifie « ville de la consolation », accueille celui qui vient consoler son peuple, celui qui est le consolateur de toutes les nations. C'est là, sur les bords de la mer de Galilée, que le Seigneur voit André et Simon, son frère. C'est là qu'il voit les fils du tonnerre, Saint Jean et Saint Jacques. C'est donc sur la terre de Nephtali que le Seigneur appelle ses premiers disciples, ceux qu'il prédestine à être ses apôtres. Ils seront ses quatre plus proches disciples. Simon sera d'ailleurs appelé Pierre, car il est appelé à être la pierre sur laquelle le Seigneur bâtira son Église. Une Église qui est le nouvel Israël. Si Israël était fondé sur les 12 fils de Jacob, l'Église repose quant à elle sur les 12 apôtres que le Seigneur envoie de toutes les nations faire des disciples. Mais aussi intéressant que puissent être ces considérations géopolitiques de notre temps, il nous reste une dernière question à affronter. En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui ? Pourquoi notre Sainte Mère l'Église nous donne-t-elle à entendre la prophétie d'Isaïe et dans la première épître et dans la citation qu'en fait Saint Matthieu dans l'Évangile ? Eh bien, il y a deux raisons à cela. La première, elle nous concerne chacun individuellement. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous refusons de suivre sa loi, lorsque nous préférons le vice à la vertu, lorsque nous préférons les ténèbres du péché à la grâce de Dieu, notre âme est comparable aux terres de Zabulon et de Nephtali. La conséquence est identique, nous encourons l'exil de la terre promise que nous est le paradis. Que faut-il donc faire ? Il nous faut accueillir le Christ, la lumière intérieure de nos âmes, afin qu'elle éclaire, cette lumière, notre conscience. Écoutons-le, le Seigneur. Il nous dit ce soir, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Mais que faut-il donc faire, Seigneur, pour se convertir ? Que faut-il donc faire pour accéder au paradis ? La réponse peut être déconcertante, mais vous l'incarnez ce soir. « Venez à ma suite. » Il nous suffit d'ouvrir notre âme au Christ pour qu'il nous conduise par l'Église jusqu'à la gloire du ciel. La seconde raison, lui est semblable mais sur une autre échelle. Cette prophétie ne nous concerne plus individuellement mais collectivement. La France, que le poète dans sa chanson appelait « Douce France » est aujourd'hui aussi amère que divisée. Notre France, jadis si chrétienne qu'on l'a désignée la lumière des peuples, la France qui dans le projet de Dieu est la fille aînée de l'Église en raison du baptême de notre roi Clovis en l'an 398, notre France, avec son manteau de cathédrale, sa cohorte de saints que nul ne peut dénombrer, et depuis quelques années comparable aux terres de Zabulon et de Nephtali. Notre France est aujourd'hui un vrai Capharnaüm, c'est-à-dire dans un grand état de désordre, car nous avons abandonné Dieu. Nous avons préféré au règne de Dieu le règne si prometteur de l'argent. Mais ne nous laissons pas aller à la désespérance, c'est là que vient la prophétie d'Isaïe. Parce que dans le projet de Dieu, la France n'est pas promise à un grand remplacement. Dans le projet de Dieu, la France est appelée à un grand relèvement. C'est ce que le Seigneur déclara à l'âme privilégiée que fut Marthe Robin. « La France tombera bien bas, lui dit le Seigneur, mais elle se relèvera plus vite que la balle ne rebondit. » Alors, frères et sœurs, élevons nos cœurs, élevons nos âmes, car le Seigneur est proche. Faisons nôtre la finale du psaume du roi David en ces temps troublés. « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Puisse la bienheureuse Vierge Marie soutenir du haut du ciel et en ses sanctuaires notre espérance, nous redonner courage pour les temps qui viennent, ainsi soit-il.